Valérie Borde, bonjour. Vous êtes journaliste scientifique pigiste. Vous travaillez sur mandat pour plusieurs publications importantes au Québec, dont le magazine L'Actualité. Et vous êtes lauréate du prix Jules Fournier pour la qualité de la langue. Donc, merci beaucoup d'abord de participer à cette entrevue.
Bonjour, c'est moi qui vous remercie.
Alors, on parle aujourd'hui des médias. Et de l'innovation scientifique en santé. La couverture médiatique constitue un levier politique puissant. Elle est susceptible d'influencer considérablement l'opinion, on le sait. Ma première question serait, à votre sens, quel est le rôle du journaliste devant l'émergence d'une innovation médicale et plus particulièrement devant une controverse qui entoure l'une de ces innovations, par exemple un test de dépistage génétique controversé? Quel est, à votre avis, votre rôle?
Eh bien, écoutez, moi, je pense que pour les innovations scientifiques en santé, comme dans tout autre domaine, le rôle des journalistes, c'est d'abord d'informer. Dans le cadre quand on s'intéresse à des sujets comme ça, il faut évidemment s'informer avec le plus de précautions possible, c'est-à-dire expliquer exactement de quoi on parle, ce que ça apporte, ce que ça enlève éventuellement, en quoi ça fait réfléchir, en quoi c'est important. Et surtout, je pense que ce qui est très, très important, c'est de beaucoup parler du contexte des innovations. C'est peut-être un reproche que je ferais aux choses qu'on lit habituellement sur des innovations, et c'est aussi le cas pour des controverses. On a tendance à rapporter les choses de manière très isolée et assez peu parler, finalement, de l'environnement dans lequel cette innovation surgit. Et pourtant, c'est ça qui va être important pour permettre d'expliquer vraiment ce que ça apporte ou ce que ça soulève comme changement.
Donc ça, c'est une de vos règles fondamentales de travail, c'est que vous replacez
le contexte. Pour moi, il est absolument fondamental dans la mesure où une innovation en soi, pour le commun des mortels, ça ne veut rien dire. C'est parce que ça demande de comprendre un peu dans quel cadre elle se situe. Si je vous dis on a un chercheur au Texas qui a prouvé, j'ai rapporté ça dans un article récemment, on pourrait remplacer le cœur par un cœur sans battement, un cœur artificiel qui ne bat pas. Ça paraît une nouvelle absolument extraordinaire, mais il faut resituer le contexte de ça. Pourquoi est-ce qu'on veut faire ça? Est-ce qu'on est à la veille de le faire, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on imagine pour dans 20-30 ans? Qu'est-ce que ça peut coûter? Qu'est-ce que ça représente comme défi technologique? Tout ça, c'est des informations qui vont être fondamentales pour permettre de bien saisir et de bien expliquer l'importance de l'innovation.
Absolument, oui.
Donc, c'est sûr que pour le journaliste, c'est tout un défi aussi. C'est un défi intellectuel, c'est-à-dire qu'il faut d'abord arriver soi-même à comprendre, parce que c'est pas évident. Y a beaucoup de choses, on n'est pas des spécialistes. Il faut donc trouver les bons experts, faire beaucoup de recherches, essayer vraiment de comprendre les choses soi-même avant d'entreprendre de les expliquer. Et puis ensuite, y a tout un défi éditorial aussi, qui est de rendre cette information-là intéressante, parce que on lit pas un magazine ou on n'écoute pas les nouvelles comme on apprend un devoir d'école. Nos lecteurs ne sont obligés de rien, donc il faut qu'on les intéresse, il faut qu'on les passionne, il faut qu'on trouve des moyens de retenir leur attention, et ça, c'est pas en leur présentant des équations mathématiques.
Il faut leur raconter une histoire, en somme.
Il faut leur raconter une histoire, tout à fait. Il faut qu'il y ait des gens, il faut qu'il y ait des émotions, il faut qu'il y ait du suspense, tous les ingrédients d'une bonne histoire. Il faudrait que chaque article scientifique soit aussi puissant qu'un film hollywoodien.
Et c'est un défi, Oui, oui, absolument. À part cette mise en contexte dont vous parlez tout à fait clairement, quelles sont les règles fondamentales, les autres règles auxquelles vous ne dérogez pas lorsqu'il s'agit d'aborder une controverse?
Quand il s'agit d'aborder une controverse, déjà, la chose qui est claire, c'est qu'il faut présenter un peu le point de vue de chacun. Il y a toujours des pour et des contre. Il faut aussi essayer de trouver des experts et des sources fiables, et de bien mettre en évidence aussi les liens de chacun avec la controverse. Si vous citez une controverse sur un médicament et que vous interviewer un chercheur de la compagnie qui fabrique ce médicament, faut le dire.
Oui.
C'est fondamental pour bien expliquer la controverse. Il faut aussi toujours, je reviens beaucoup au contexte parce que c'est pour moi c'est vraiment le cœur de tout ça. Il faut que quand on parle d'une innovation, on peut pas se limiter à parler de l'aspect par exemple technologique de la chose. Il faut autant que possible toujours essayer de parler à la fois de la technologie, mais aussi d'un point de vue social, d'un point de vue économique, d'un point de vue éthique, d'un point de vue environnemental, pourquoi pas. Il faut vraiment essayer de voir un peu tous les tenants et aboutissants.
Et vous parliez tout à l'heure de sources, hein. C'est évidemment un aspect tout à fait crucial dans le traitement et dans le travail journalistique. Et quelles sont les sources que vous considérez comme fiables dans le cadre d'une innovation médicale? Est-ce que vous avez tendance à privilégier certaines sources aux dépens d'une autre ou...
Non, je rejette jamais aucune source a priori je lui accorde pas plus de crédit que ce qu'elle est censée en avoir. Hein. Par contre, je pense que c'est important quand on parle par exemple à des spécialistes. Il y a spécialistes et spécialistes. Okay. Hein. C'est pas parce qu'on est un médecin qu'on est forcément la meilleure personne pour parler de tel ou tel aspect très pointu. Peut-être que la meilleure personne pour en parler, ça sera un médecin, mais ça peut être aussi un spécialiste, ça peut être aussi un spécialiste de l'éthique aussi. Et je pense que maintenant, avec la possibilité qu'offre Internet d'aller fouiller partout dans le monde sur ce que font des chercheurs partout sur la planète, il n'y a pas de sujet sur lequel on puisse pas trouver d'experts. C'est sûr qu'on le trouvera peut-être pas à 300 mètres de chez nous, là, mais on le trouvera.
D'accord. Et selon votre perception, quel poids a le discours de l'industrie? Évidemment, on imagine que l'industrie se dote d'une batterie de professionnels de relations publiques pour vous séduire, pour tenter d'influer votre article dans un sens qui les avantagerait.
Oui.
Et c'est peut-être une source malgré tout importante d'informations.
On peut difficilement s'en passer.
On peut difficilement s'en passer, mais est-ce que vous avez une espèce de prudence, de méfiance à tout égard? Est-ce que vous êtes...
Oui, mais je vous dirais que c'est certain qu'on essaye toujours de se méfier, mais en même temps, c'est dans une certaine limite. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, nous, aller refaire les expériences des chercheurs. C'est pour ça qu'il faut toujours aller chercher, surtout dans quelque chose de controversé, aller chercher un peu tous les avis et pas se limiter à une seule source. Oui. Ceci dit, je pense que le travail du journaliste reflète aussi la société dans laquelle on vit, qui n'est qu'une lutte de jeu de pouvoir d'un bout à l'autre, et qu'on a tendance des fois un peu à négliger quand on parle d'innovation médicale. Peut-être qu'on commence à plus en parler avec tous les médicaments, où on sait que l'industrie pharmaceutique est très puissante, etc. On en parle peut-être moins quand il s'agit, je sais pas moi, d'une nouvelle procédure qu'on va mener à l'hôpital ou d'un nouvel appareil d'imagerie. Mais on oublie aussi que derrière ça, il y a des industries, il y a un marché. Les hôpitaux, c'est aussi pour les fabricants d'équipements un formidable marché en plein développement.
Voilà.
Il faut voir ça aussi.
Bien sûr.
Tout concourt à essayer de nous influencer. Hein, donc, c'est pas toujours évident.
Voilà. Vous parliez des quelques gros scandales qui ont émaillé ces dernières années, hein, l'industrie pharmaceutique. Il y a quand même, on peut parler de Vioxx, par exemple, qui a quand même défrayé la
crise. Oui.
On dit un peu que l'industrie pharmaceutique a perdu pas mal de points en matière de crédibilité dans sa communication, qu'ils ont vraiment du terrain à rattraper. Est-ce que vous, comme journaliste, vous avez perçu ça un peu, soit une inflation dans leur activité de relations publiques, d'essayer de combler en fait ce déficit de crédibilité, Ou est-ce que vous-même, peut-être, vous êtes devenue encore plus prudente avec les informations qui proviennent de l'industrie?
Ben écoutez, moi, dans mon cas personnel est un peu particulier dans la mesure où ma sœur travaille dans une compagnie pharmaceutique que je ne citerai pas, mais qui me permet d'avoir une vision un peu de l'intérieur aussi, de
Ah,
comment les
d'accord.
choses se font. Donc, et j'ai moi-même fait des études, on en revient aussi à ce que c'est qu'un journaliste scientifique. Moi, j'ai fait des études en chimie. J'ai vu aussi des compagnies qui font de la recherche de l'intérieur. Je sais comment ça fonctionne.
D'accord. Donc ça
Donc,
aussi,
ça permet de bien relativiser les choses, de bien
oui.
comprendre comment les choses avancent, comprendre que les compagnies pharmaceutiques ont bien évidemment un rôle important à jouer, mais qu'elles n'ont pas toutes les réponses non plus,
Oui.
et que c'est beaucoup, je reviens encore là-dessus, mais c'est beaucoup des questions de gros sous, hein.
Oui, tout à fait.
Et y compris pour des médicaments qui sortent, qui des fois, bon, il faut absolument essayer de rentabiliser le développement. C'est vrai que ça coûte extrêmement cher. C'est vrai aussi qu'il y a une réglementation qui est de plus en plus sévère, mais c'est normal, mais que ça impose aussi des efforts de plus en plus importants. Et donc, la donne est en train de changer un peu des deux côtés aussi.
Voilà. Et vous travaillez vous-même pour un magazine. Ce sont déjà des conditions peut-être un petit peu à part dans le monde des médias. Je veux dire, c'est un type de journalisme peut-être un petit peu plus fouillé, un petit peu plus
Tout à
argumenté
fait.
qu'un quotidien. Il y a des différences notables hein, dans le traitement journalistique des innovations selon le type des médias.
Oui.
Est-ce que vous pourriez nous illustrer un peu, par exemple, la grande différence entre votre magazine et un quotidien ou même peut-être la télévision, les nouvelles?
Ben écoutez, je pense que la grosse différence, c'est le traitement d'une nouvelle, que ce soit une nouvelle à l'écrit ou dans des médias électroniques, par rapport à une approche plus de reportage qui peut être aussi bien télévisuel que papier, hein. C'est sûr que quand on est dans la nouvelle, on est dans l'instantané, on a comme journaliste quelques heures, voire moins que ça, pour traiter une nouvelle. Moi, comme journaliste, bon, c'est personnellement un choix que j'ai fait de vouloir travailler pour des magazines, ça correspond mieux à ma manière de travailler, mais comme journaliste magazine, moi, je peux passer un mois sur un article et j'ai beaucoup plus de
Ah bon.
temps
Pour faire vos investigations
pour
et
faire mes
pour.
investigations, pour faire de la recherche, pour trouver les bons interlocuteurs aussi, parce que c'est pas
Oui.
toujours facile de trouver quelqu'un pour répondre à nos questions quand on a une heure pour le faire, hein. C'est sûr que c'est beaucoup plus difficile de traiter toutes ces questions d'innovation médicale qui sont, pour parler en langage populaire, en général assez touchées.
Oui.
Donc, quelqu'un qui est dans un quotidien, ça va être beaucoup plus difficile. Mais là, je reviens encore sur cette histoire de contexte.
Oui.
Je pense que ça, c'est fondamental, même quand on a très peu de temps ou très peu de lignes pour décrire une innovation. Il faut accorder une importance majeure à
Tout
ce
à fait.
contexte-là.
Et vous-même, est-ce que vous avez une grande latitude pour le choix de vos sujets? On connaît mal hein, la pratique du journaliste pigiste. Est-ce que vous avez finalement, vous faites des propositions à votre magazine ou à l'ensemble de vos clients?
Ben écoutez,
Ou est-ce que c'est eux qui vous commandent des articles sur des sujets, sur
je vous
des
dirais qu'il y a
innovations?
les deux, et ça dépend un peu du type de relation que, comme journaliste, vous avez avec tel ou tel média. Moi, pour prendre l'exemple du magazine L'Actualité, avec lequel je collabore beaucoup, on peut parler plus d'échanges,
Oui.
c'est-à-dire que, bon, un sujet va émerger d'un bord ou de l'autre, on va en discuter, il va cheminer. Moi, je dirais que, comme journaliste, mon rôle est un peu d'alimenter en contenu, de suggérer toujours des pistes, des idées, de choses. Le magazine, lui, va avoir, la rédactrice en chef va avoir plus à composer avec l'ensemble de l'information, donc s'assurer qu'on ne va pas faire trois couvertures de suite sur le même genre de sujet, qu'on ne va pas parler juste de santé ou juste de politique ou juste
C'est ça.
d'environnement. Donc elle va faire la balance aussi de tout ça. Elle a aussi plus de contacts directs avec les lecteurs via les sondages qu'on peut faire pour savoir ce que veulent les lecteurs, les choses qui les intéressent, les choses qu'ils veulent lire. Et ça, elle va se charger de le porter à l'attention de ces journalistes. Donc le rôle est un peu différent. Mais oui, on propose des sujets. Oui, on s'en fait proposer. On les accepte, on les refuse, on les modifie. Toutes les combinaisons sont un peu possibles.
D'accord. Donc, il est évident que l'émotion, comme vous le disiez plus haut dans notre entrevue, l'anecdote, sont souvent des vecteurs qui sont utilisés par les médias, mais aussi par la publicité, par l'industrie.
Oui, tout à fait.
Selon différents vecteurs, pour capter l'attention, pour faire aussi mieux passer une information complexe, pourquoi pas, ça peut avoir une visée didactique. Or, si on prend un petit peu un contexte plus large et on essaye de se placer du point de vue du décideur politique, de l'élu, qui doit prendre des décisions qui impliquent des normes, de colossales ressources collectives, par exemple l'achat ou la généralisation d'une technologie médicale à l'ensemble de son système de santé. Donc ce contexte émotionnel qui est quand même agité dans l'opinion publique, c'est pas très très favorable à la prise de décision, disons, éclairée. On aurait tendance à avoir peut-être des dérapages au niveau de la prise de décision par rapport à des politiques d'achat ou des politiques d'innovation, de recherche et de développement. Vous, est-ce que c'est quelque chose qui vous préoccupe ? Est-ce que c'est même quelque chose que vous percevez ? Est-ce que votre rôle, vous, comme faiseur d'opinion, est-ce que c'est quelque chose qui vous habite ? Est-ce que c'est une perception que vous...
C'est sûr que l'émotion va toujours jouer un rôle et c'est tant mieux finalement, parce qu'on vit quand même dans une société humaine, on vit en société, on est des êtres humains. Maintenant, c'est vrai que toute la question que ça amène, c'est la question de l'objectivité pour nos décideurs, c'est-à-dire qu'on manque souvent de recul par rapport à beaucoup de ces questions-là.
Donc vous replacez un peu les responsabilités là où elles doivent être. Vous dites aussi les médias c'est une chose, vous faites votre travail au plus près de votre professionnalisme, mais il y a quand même, disons, au niveau de la prise de décision, des responsabilités puis des mécanismes à avoir qui sont en dehors du processus médiatique.
Mais écoutez, moi je pense que dans la mesure où vous allez peut-être me trouver un peu sévère, mais on a l'impression qu'on est gouverné à coup de sondages et de qu'est-ce qui est populaire et pas populaire et c'est pas ça. C'est pas ça réfléchir.
C'est ça, exactement. Et peut-être un petit regard sur l'avenir de votre profession. Pour vous, les nouveaux défis du journalisme scientifique, donc les innovations deviennent de plus en plus complexes. Ça, je crois que les progrès de la science sont rapides et surspécialisés.
Oui.
Est-ce que l'accès à l'information devient plus grand? Oui, certainement. Avec l'Internet, tout est en fait...
Écoutez, moi je pense que c'est un grand atout pour les journalistes. Si je me fie à mon expérience personnelle, d'avoir un outil qui nous permet d'aller fouiller partout. Alors évidemment, il faut savoir se servir d'Internet. Toutes les sources d'informations qu'on trouve sur Internet ne sont pas équivalentes, loin de là. Mais ça permet quand même d'accéder à une quantité d'informations fiables tout à fait incroyable. Et comme journaliste, ça aide énormément, justement, quand on veut remettre les choses en contexte, quand on veut trouver des experts, pour moi, ça a littéralement changé complètement le métier de journaliste. Ça a facilité beaucoup, beaucoup la recherche d'informations. Ça demande aussi d'être plus précautionneux cautionneux dans une certaine mesure, dans la mesure où toutes les informations, les sources d'informations ne se valent pas, mais quand même globalement c'est un avantage énorme. Après, il faut le contrepoids de ça, c'est qu'effectivement il faut arriver à garder une vision d'ensemble et pas se noyer dans tout un tas de détails et d'innovations qui n'en sont pas vraiment. Et je reviens encore là-dessus au contexte, c'est toujours là-dedans que ça se passe. Hein.
Oui.
Mais c'est sûr que ça change le travail de journaliste d'avoir accès à énormément d'informations aussi facilement.
Voilà.
La plupart des informations étaient accessibles avant, mais c'était beaucoup plus compliqué, beaucoup plus long. Pour les gens qui travaillent dans un quotidien, ça, c'est encore plus flagrant de pouvoir tout de suite repérer un expert à l'autre bout du monde. Pensez-y, sans Internet, c'est autre chose. Hein.
Voilà. C'était un peu la mission du blog hein, que Pascal Lehoux met en ligne et sur
lequel
paraît cette entrevue. Finalement, les journalistes...
Trouve que, d'ailleurs, au passage, je trouve que c'est une excellente initiative et c'est l'occasion de débattre sur la place publique de sujets dont on débat finalement peu parce que vous disiez le rôle, vous me demandiez tout à l'heure le rôle des journalistes, c'est évidemment de rapporter ces informations, ces innovations, de les commenter, d'essayer de les comprendre et les mettre en perspective. Mais on voit aussi que dans notre société, il n'y a pas tellement de débat social là-dessus. Mm-hmm. Quand on regarde toutes les discussions qu'il peut y avoir sur les budgets en santé, sur le public, le privé, etc., on se focalise sur certains aspects finalement assez politiques de la question, mais on ne se pose pas tellement de grandes questions fondamentales.
Hein. Absolument. Donc, il me reste à vous remercier chaleureusement pour votre temps.
Ça m'a fait plaisir.
C'était une très bonne entrevue. Merci beaucoup.
Ben, c'est rien. Bonne journée.
Au revoir. Merci.
Au revoir.